Pénès. Bonjour, inspecteur Julien et Samir. Nous vous attendions. Je suis le commissaire Homer. Parlez-moi de la victime.
Il s'agit d'un individu d'une quarantaine d'années qui travaillait dans un grand groupe d'import-export. Il paraît que le crime soit lié à son métier.
C'est une affaire pour nous. Julien, enfilons nos lunettes de soleil pour résoudre cette affaire. Julien, as-tu remarqué un détail qui ne trompe pas ?
Oui, Samir. Je remarque que l'individu a transpiré avant de clamser.
Totalement. Julien, regarde aussi l'état de ses ongles. Il a l'air de les ronger fréquemment.
Intéressant. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de coups ou d'agressions. Est-ce que tu le vois venir, Samir ?
Oui, Julien.
Oh shit, cette fripouille de Hanks a encore frappé.
Oupinez, Hanks qui ?
Anxiété.
Tadam ! Salut Samir.
Salut Julien.
Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur, où on te vient avec une petite touche d'humour au démarrage pour te parler d'une affaire importante, celle de l'anxiété. On l'avait déjà évoqué dans différents podcasts, mais on va s'arrêter ici pour en parler plus en détail et te donner des astuces, des clés pour mieux comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne et puis surtout comment tu peux prendre de la distance aussi avec ces mécanismes automatiques qui peuvent peut-être se déclencher chez toi de manière peut-être trop prononcée parfois.
Exactement. Et effectivement, on a fait ce petit intro drôle parce que c'est vrai, l'anxiété peut tuer. Si on ne sait pas la gérer, si elle prend trop de place, elle va avoir des effets sur notre santé, sur notre équilibre mental et aussi sur notre équilibre général. C'est la raison pour laquelle on veut en parler. Parce que
tout
c'est important,
fait.
Dans un premier temps, de savoir ce que c'est, et puis par la suite, de savoir comment on peut faire pour reprendre le contrôle, ou plutôt la maîtrise, non pas le contrôle, la maîtrise de cette anxiété. Alors
ouais,
Julien, peut-être, tu en as envie d'expliquer, c'est quoi l'anxiété, d'où ça vient
Dans les grandes lignes, l'anxiété, c'est un trouble mental qui est quand même assez répandu, puisque ça touche plus d'une personne sur 10 à travers le monde. Il y a des régions du monde qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. Mais globalement, tu croises plusieurs personnes dans la journée et tu peux être sûr que parmi ce groupe de personnes que tu croises, il y en a qui vont souffrir justement d'états d'anxiété. Alors, ça peut amener tout un tas de choses et on va s'en parler, mais globalement, il va y avoir des symptômes physiques et psychologiques qui vont ressortir. Alors, dans les symptômes physiques, on va retrouver de la palpitation, tremblement, transpiration, comme ce corps que nous avons retrouvé avec l'inspecteur Homer. Mais aussi tout ce qui va être nausées, étourdissements, difficultés respiratoires, des tensions musculaires. Et puis après, le côté psychologique, là, c'est de l'inquiétude excessive, c'est des peurs irrationnelles, c'est des difficultés à se concentrer, c'est de l'irritabilité. On peut retrouver de l'insomnie, de la réactivité. On peut aussi trouver des phases de blocage, littéralement. Je peux pas prendre de décision, je peux pas passer à l'action, je peux pas avancer, je peux rien faire. Donc, tout ça dans les grandes lignes, ce que ça représente. Maintenant, pour peut-être aller sur le terrain des causes et aussi les facteurs risques qui sont liés à l'anxiété. En fait, déjà, le premier point que j'ai envie de donner ici, c'est que on n'est pas tous égaux face, justement, aux difficultés psychologiques, mentales, aux troubles mentaux. L'anxiété liée à des facteurs biologiques, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition génétique, il y a un déséquilibre des neurotransmetteurs, il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être durant la grossesse de la mère, et que tout ça s'est venu affecter le potentiel d'avoir un profil, finalement, qui va être peut-être plus anxieux que une autre partie de la population. Il va y avoir aussi tous les facteurs psychologiques et nous, ce qu'on aime aussi appeler les stratégies cognitives problématiques, c'est que selon comment tu vas guider tes pensées, est-ce que tu vas donner de la place à des pensées négatives ? Est-ce que tu vas donner de la place à des pensées irrationnelles ? Est-ce que tu vas avoir une faible estime de toi ? Est-ce que tu vas avoir un manque d'utilisation de ta confiance en toi ? Est-ce que tu vas avoir des process d'évitement des risques ? D'évitement des dangers, mais beaucoup trop prononcés. Est-ce que tu vas éviter de prendre des décisions? Tout ça, en fait, c'est des stratégies qui vont être, comme on les appelle, pathologisantes, parce que elles vont augmenter, elles vont participer, en fait, à déclencher ces risques-là. Et puis, il y a tous les facteurs environnementaux. Donc là, c'est ton environnement, tes relations, ce qui se passe autour de toi, le rythme de vie que tu utilises, que tu as, le stress chronique que tu peux vivre, les traumatismes par lesquels tu as pu passer, les abus que tu as pu subir, quelle que soit la forme, physique, émotionnelle, psychologique. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont en fait s'associer et qui vont donner bah, justement l'apparition de troubles d'anxiété qui vont prendre plus ou moins de place. Et après, bah, ça peut prendre plein de formes, mais ça touche tout le monde. Ça peut toucher les enfants en très bas âge, comme ça peut toucher les adultes, les personnes âgées. Ça peut toucher absolument n'importe qui.
Ouais, exactement. Et moi, peut-être que j'aimerais mettre une petite nuance, Julien, c'est quand tu disais au départ, l'anxiété est un trouble mental. Mais est-ce qu'il y aurait justement une anxiété qui pourrait être comme normale ou une anxiété qui pourrait être, elle, un trouble? Parce qu'on parle souvent de trouble de l'anxiété. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
Bah, en fait, ça va être la récurrence, la durée et l'intensité.
Ok.
C'est vraiment trois points. Je pense qu'il y en aurait d'autres qu'on pourrait mettre dans la liste, mais au moins ces trois points-là, de dire, ok, t'as des états anxieux qui se produisent, c'est un phénomène qui est naturel pour le cerveau parce qu'il a naturellement tendance à aller s'intéresser à ce qui fonctionne pas, à ce qui est dangereux, à ce qui représente un risque, parce que bah, ça fait partie de nos mécanismes d'existence et de survie. Chez les personnes anxieuses, ces process-là sont beaucoup plus forts et beaucoup plus sollicités. Donc, on va vraiment regarder, ça dure combien de temps, c'est quoi l'intensité et c'est quoi la récurrence.
Exact.
Et ça va te dire si bah, tu fais une expérience peut-être plus contextuelle d'anxiété. Et à ce moment-là, on peut même peut-être parler d'angoisse, puisque ce sont des process qui sont assez proches. Ou alors, c'est vraiment des choses que tu vis au quotidien, pour un oui ou pour un non. De te dire bah tiens j'ai laissé mes clés à cet endroit-là, ça se trouve je vais les perdre, ou ça se trouve on me les a pris, ah bah tiens je devais aller faire ça puis j'ai pas eu le temps, ça se trouve ça a pu être disponible. Tu sais, dans quelle mesure en fait cette dynamique anxiogène mentale, émotionnelle, comportementale, elle est présente dans ta vie, je mettrai ces points-là en fait en avant.
Exactement. Ouais, si je te pose cette question, c'est justement pour les personnes qui nous écoutent, parce que l'anxiété, ça peut être aussi quelque chose de naturel. Il y a pas, je pense, enfin, il y a personne qui n'en vit pas. Donc, c'est juste de comprendre que ça dépendra en fait. Qu'est-ce qui fera que c'est un trouble ou qu'est-ce qui fera que ça serait peut-être une anxiété qui peut être vécue, tu sais, de façon temporaire, une fois de temps en temps, parce que peut-être que t'as cumulé quelque chose. Et donc voilà, toi qui nous écoutes aussi, c'est à toi de voir justement, est-ce que t'es dans l'anxiété qui est fréquente, chronique, ou est-ce que tu es dans quelque chose qui est plus ponctuel une fois de temps en temps, parce que là, peut-être tu es en train de vivre quelque chose qui est hyper compliqué, que tu n'as pas réussi à la gérer, et du coup, tu vas passer sur une courte période d'anxiété.
Ouais, juste un petit point aussi, c'est que là, j'ai évoqué vraiment la notion d'angoisse à côté.
Ouais,
et si tu veux, là, je vais juste donner les grandes lignes de différence qu'il y a entre l'anxiété et l'angoisse.
Ouais.
L'anxiété, elle n'a pas d'objet. L'angoisse a un objet. Ça signifie quoi? Ça veut dire que l'anxiété, je vais avoir un sentiment qui va être souvent diffus et ça ne va pas se déclencher pour une raison particulière. C'est comme un état latent qui peut ressortir à tout moment puis s'étaler dans le temps de façon plus ou moins intense. L'angoisse, quand elle se produit, c'est lié à un objet. Ça peut être une dispute qui va arriver, une conversation difficile. Ça peut être un événement particulier qui vient créer, en fait, un état d'anxiété, mais qui est amené à travers une montée soudaine et une intensité des symptômes. Donc, c'est vraiment très localisé dans le temps. Je fais une crise d'angoisse, et puis une fois que la crise d'angoisse est passée, je reprends les choses. L'anxiété, c'est vraiment un état qui est beaucoup plus présent et diffus et qui va avoir différents niveaux d'intensité, mais vraiment de faire la distinction. Et souvent, malheureusement, quand les périodes d'angoisse sont mal gérées, ça peut se transformer en anxiété.
Ouais.
Et après, si l'anxiété devient finalement persistante et qu'elle a tendance à trop ressortir, donc là on voit la multiplicité des occasions où l'anxiété ressort, l'intensité, la répétition, etc., bah là, on peut tomber dans ce qu'on appelle l'anxiété généralisée. Et dans ce cas-là, bah en fait, un rien te fait réagir sans pour autant qu'il y ait une raison particulière. Et tu peux continuer à vivre des crises d'angoisse en même temps dans cette dynamique-là.
Ouais.
Fait que je voulais juste remettre ça en perspective pour que ce soit bien clair de voir bah, qu'est-ce que peut-être toi qui nous écoutes, tu vis dans le quotidien, puis qu'est-ce qui serait bien justement de mettre en place, mais on va s'en parler après.
Ouais. Il y a un autre truc, moi aussi, où j'aimerais bien faire une petite différence, parce que là, tu as fait la différence entre l'anxiété et la crise d'angoisse, mais il y a aussi souvent deux termes qui sont confondus, c'est stress et anxiété. Et c'est pas la même chose également. Ouais. Le stress, c'est une réaction d'adaptation face à un défi ou une menace, et c'est une réaction naturelle du corps. Notre corps nous prépare à agir face à une situation.
Donc, tout à fait.
Pareil, le stress, en fonction de la manière dont il va être géré, peut être comme positif ou peut être négatif, dans le sens où le stress, c'est une énergie qui est à l'intérieur de nous, qui se déclenche. Si on la sort pour se sortir de la situation, si on utilise cette énergie, bah en fait, ce stress va être positif. Par contre, si on la stocke à l'intérieur et qu'on reste comme figé et qu'on ne fait rien, bah elle reste à l'intérieur de nous, cette énergie, et à un moment ou l'autre, elle va commencer à nous faire mal et elle peut se transformer en anxiété par la suite.
Tout à fait.
Et bah, l'anxiété, justement, Julien, tu l'as expliqué, sentiment d'inquiétude, d'appréhension ou de peur excessif, justement, lié à une prévision, comme tu dis, du danger, à un trop fort besoin d'anticipation. Parfois aussi, le besoin de contrôle peut amener de l'anxiété. Les personnes qui ont un trop fort besoin de contrôle, qui veulent vraiment contrôler constamment leur environnement, vivent de l'anxiété.
Souvent, tu vas avoir les deux qui sont connectés, effectivement. Puis, le stress, peut-être pour pousser ce truc-là un peu plus loin, c'est que oui, si tu vis de l'anxiété, bah, tu vis du stress parce que ton système, il cherche à s'adapter, comme tu l'as dit, Samir. C'est le syndrome d'adaptation. Principalement, la notion de stress, quand on l'aborde, tu sais, on ne parle pas du stress occasionnel de « je m'apprête à traverser la rue, il y a une voiture qui arrive, je saute sur le trottoir, je tremble de partout ». Oui, bon, bah ok, t'es stressé à ce moment-là par la situation, mais c'est plus ce stress de fond. Et tout état, comme celui de l'anxiété, va effectivement créer du stress.
Ouais,
complètement.
Exact. Merci beaucoup, Julien, pour cette explication.
Ah bah merci à toi.
Très détaillé, justement, des différences et puis justement de d'où ça vient, etc. Il faut savoir aussi que parfois, il y a un truc qui pop là à l'instant, mais parfois le stress peut, ou plutôt l'anxiété, peut être accompagné d'autres troubles. En tout cas, pour les personnes qui ont un trouble anxieux, il peut être accompagné d'autres troubles tels que des TOC, parce que justement, il y a ce besoin comme de... Tu sais, bah, si on parlait des personnes qui ont un fort besoin de contrôle, mais il y a ce besoin de contrôler l'environnement et ça va ressortir dans d'autres choses, comme le TOC va être comme un moyen par la suite de reprendre le contrôle sur quelque chose. En fait, c'est comme j'ai le contrôle sur mes TOC, même si on a l'impression de ne pas avoir le contrôle, hein, mais notre système,
tout à fait,
il va comme transférer ce besoin de contrôle sur un TOC. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent venir.
Ouais, bah justement, quand tu disais ça, ça me faisait penser au fait que dans près de la moitié, finalement, des personnes qui souffrent de troubles anxieux, on va retrouver en fait des symptômes dépressifs, voire la dépression qui est en place, sachant que la dépression peut être une conséquence des troubles anxieux, mais peut aussi être la cause des troubles anxieux. Donc il y a aussi ça à voir, c'est que si jamais tu veux être accompagné sur cette problématique de l'anxiété, c'est pas juste dire en fait j'ai que l'anxiété à travailler. Il y a certainement d'autres choses. Il y a d'autres facteurs, il y a d'autres éléments, il y a d'autres conditions en fait qui peuvent venir s'ajouter à ça. Et il faut vraiment avoir une approche plus globale et pas juste se dire bah je vais me concentrer là-dessus, parce que on peut trouver bah plein de phobies qui vont s'ajouter à ça. On peut trouver des troubles alimentaires aussi, des troubles de la consommation. On peut trouver des troubles physiques. Fait que c'est une problématique qui est complexe, et si on veut pouvoir être pris en charge correctement, faut pas juste se dire « Ah, bah, je vais juste travailler à prendre en charge mon anxiété », parce que c'est pas suffisant. Faut s'occuper de tout ce qu'il y a autour de ça.
Ouais, exact. Merci à toi, Julien. Peut-être du coup, maintenant qu'on a fait le tour par rapport à l'anxiété, etc., peut-être amener des solutions. Mais encore une fois, il y a un truc qui vient de popper à l'instant, là, qui vient de sortir de mon esprit et qui me dit « Mais tiens, Julien, c'est vrai, nous sommes des personnes, toi et moi, on a de l'hypersensibilité. Et c'est quelque chose qui peut être très présent à cause du fait que l'hypersensible va avoir une pensée en arborescence, va avoir cette capacité d'anticipation, va avoir aussi cette sensibilité à des stimuli. En fait, il y a beaucoup de stimuli extérieurs, ils captent énormément d'informations, beaucoup plus que la moyenne des personnes. Et du coup, ça, cette saturation en informations, en stimuli, peut amener aussi cette anxiété, à vivre de l'anxiété beaucoup plus souvent que les autres.
Oui, en fait, on peut l'étendre à plus que les profils hypersensibles. On va prendre les profils atypiques de manière générale, où finalement, le profil atypique a tendance, on va pas faire une généralité, parce que d'une personne à l'autre, il peut y avoir des variations, mais c'est vraiment de garder en tête que de par le fonctionnement du système nerveux, là où une personne, alors je vais dire normale, ça veut pas dire qu'on n'est pas normaux, d'accord, on fonctionne juste différemment, mais que par rapport à une personne qui va fonctionner dans la norme, quand une personne normale rentre dans un environnement où il y a eu des variations qui ont été faites, où il y a peut-être un changement de couleur, il y a peut-être un meuble qui a été déplacé, il y a peut-être un parfum différent de celui qu'on a l'habitude de sentir quand on va dans cette pièce-là. La personne pourra peut-être noter ces différences-là et simplement dire « Ah, tiens, ok, il y a ça qui a changé, etc. » Puis c'est tout, ça s'arrête là. Un profil atypique, de par souvent la présence d'hypersensibilité sensorielle, et pas que, va en fait inconsciemment repérer toutes les variations qu'il y a pu y avoir. Et en fait, tout changement, même infime, que ce soit dans l'environnement direct physique, que ce soit dans l'intonation de la voix des personnes qui nous entourent, que ce soit dans les mots qui sont utilisés habituellement et qui là ne sont plus les mêmes. En fait, ça va déclencher justement ce système d'alarme qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait, ça peut déclencher justement beaucoup de réactivité et un malaise qui peut s'installer sans vraiment savoir pourquoi on se sent pas bien. Parce qu'il y a eu une variation qu'il n'y avait pas sur ce qu'on avait l'habitude en fait de voir. Et comme tu le dis, de toute façon, les états anxieux sont des états qui sont naturels, normaux, mais qui sont souvent très présents avec justement les profils atypiques. Parce que on se pose 10 000 questions, parce qu'on réfléchit à plein de trucs, parce qu'on fait plein de connexions avec plein de choses, parce qu'on anticipe et pas toujours de la bonne façon. Et en fait, on peut rapidement avoir ce qu'on appelle notre facteur inhibiteur d'action qui nous empêche d'agir et qui nous amène à boucler dans notre tête par rapport à tout ça. Et du coup, de déclencher ces états anxieux, mais qui sont aussi la conséquence du manque de passage à l'action, du manque d'engagement. Puis ça va être un point qui va être qui va être une des clés en fait qu'on va donner aujourd'hui dans ce podcast.
Ouais, exactement. Du coup, on passe aux clés. Merci Julien encore une fois pour ces précisions. Pour les différentes solutions qu'on pourrait mettre en place pour reprendre la maîtrise de l'anxiété, il y en a pas mal. Maintenant, ça dépendra encore une fois du degré d'anxiété que tu vis. Est-ce que tu as un trouble anxieux? Est-ce que c'est de l'anxiété qui se présente une fois de temps en temps, qui pourrait être comme normal? Donc, l'un des premiers points que je mettrai en avant, c'est l'hygiène de vie. Parce qu'en fait, l'hygiène de vie a un impact direct sur notre état général. Une personne qui, par exemple, ne dort pas suffisamment, elle va être plus susceptible de vivre des états anxieux et de façon très profonde. L'alimentation peut jouer aussi un rôle. Pourquoi ? Parce que ce qu'on mange va influencer notre biochimie, nos comportements, etc. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites récemment par rapport à ça, où on parle de l'intestin qui est notre deuxième cerveau. Il y en a même qui parlent de l'intestin qui sait que ce serait même notre troisième cerveau, parce que dans le cœur aussi, il y a des réseaux. Il y aurait des espèces de réseaux de neurones. Maintenant, il faudrait que je lise un peu plus sur ce sujet-là. Mais vraiment de comprendre que, encore une fois, notre intestin, ce qu'on mange, les nutriments, s'il manque des nutriments, s'il n'en manque pas, toute la faune et la flore, en fait, tout ça. Je dis la faune et la flore. Ouais.
Ouais. Est-ce que tu parlais de la flore intestinale
la
ou
flore. Pas la faune et la flore.
Parce que j'étais là, je dis, à moins que tu aies un tic du Bengale dans l'intestin, mais je suis pas sûr.
Je viens de remarquer. Je me dis,
j'étais là, je dis, pourquoi il me parle de la faune?
Pourquoi je. Oula, aujourd'hui c'est difficile. On la gardera en bêtisier, celle-là, je crois.
Qui te sort du cul.
toute la flore intestinale, etc., bah, tout ça va avoir un impact, encore une fois, sur notre façon de penser, sur nos émotions, sur nos comportements. Et automatiquement, si tu manges de la merde, quelque chose qui va venir comme déséquilibrer ta flore intestinale, ben, ce qui va en découler va être négatif, va te faire vivre de l'angoisse, du stress, de l'anxiété,
ouais,
des émotions qui vont être
fluctuantes. Ouais. Ouais, complètement.
Vraiment.
Bah, d'autant plus, c'est que tu mets ce point-là en avant, et un des éléments importants aussi à comprendre, c'est que la majorité des précurseurs de ce qui nous permet de synthétiser, de produire les neurotransmetteurs se trouvent dans notre alimentation. Donc, il y a ça aussi, c'est qu'en fonction de ce que tu vas manger, tu vas aider ton système à être équilibré ou au contraire, tu vas l'empêcher de pouvoir produire correctement ce qu'il doit produire pour que ça fonctionne bien là-haut, quoi.
Mmh. Ouais, exactement. Donc, ouais, voilà, juste de savoir que ton alimentation, ton sommeil, mais pas que, ton activité physique également va avoir un impact. Après, plus tard, on va te parler justement du fait de se mettre en mouvement. Mais de comprendre que, à la base, ça va être important déjà de faire un point sur ton hygiène de vie. Si tu vis vraiment de l'anxiété très souvent, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bois beaucoup de café? Est-ce que tu manges souvent de la junk food? Est-ce que tu manges trop gras? Est-ce que tu as suffisamment d'heures de sommeil?
Le sommeil va jouer beaucoup.
C'est ça. Est-ce que tu sors marcher quand même, tu sais, une fois par jour, très souvent quand même au soleil? De pas attendre. Moi, je sais que avant, je le faisais souvent en fin de journée. Quand il commençait à faire nuit, d'aller sortir, c'est déjà bien parce que tu te mets en mouvement. Mais je sais, par exemple, que là, tu peux manquer de soleil, et le fait de manquer de soleil, ça peut aussi amener tout ça. Donc, vraiment de faire un point sur ton hygiène de vie et de voir ce que tu peux apporter comme changement.
Ouais. Ouais, complètement. Bah, c'est effectivement des bons points que t'amènes là sur savoir comment tu peux mieux gérer dans ton quotidien ta situation. Bah, personnel, où est-ce que t'en es? Faire attention à ces points-là, bah, c'est important. Et si on reste sur la notion d'environnement, il y a deux éléments, peut-être, que j'aurais envie de remettre en lumière ici, même si on en a déjà parlé et on le partage souvent, mais c'est bien de faire un petit rappel. Ouais. La première chose, c'est qu'est-ce que tu consommes dans ton quotidien en termes d'information, en termes de contenu, en termes d'écoute, de regarder, de lire, avec quoi tu nourris ton cerveau? Et on va pas se mentir, la plupart des systèmes d'information auxquels on peut accéder, bah, ce qui vend le plus, c'est les mauvaises nouvelles, c'est les choses, c'est les catastrophes, c'est les problèmes, c'est l'anticipation de telle ou telle catastrophe dans le monde. Et en fait, l'idée, c'est pas tellement de te couper de tout ça, bien qu'il y a certainement plein de choses desquelles tu peux te couper parce que t'as zéro pouvoir dessus et que, de toute façon, tu feras rien de plus par rapport à ça, mais c'est aussi d'avoir une hygiène en fait mentale qui est vraiment cadrée. Parce que si t'es pas affecté par ça et que tu vis pas d'état anxieux, que tu fais pas de crise d'angoisse, que tu te sens bien, bon bah t'es peut-être moins sensible que d'autres personnes là-dessus. Mais si t'es concerné par la problématique, fais aussi en sorte de te nourrir de ce qui va t'aider à avancer dans la bonne direction. Parce que combien de fois, en fait, tu vois, t'entends des personnes qui ont un terrain anxieux et qui te disent en permanence « Ah mais attends, mais moi j'ai vu ça à la télé, puis t'as vu cette nouvelle-là, puis ça c'est catastrophique, et puis il s'est passé ça, et puis... » Ton cerveau, il est en recherche de ces informations pour pouvoir recréer de la stabilité, de la cohérence dans ce qui est en place. Ton point de référence de cohérence, c'est ton état anxieux. Ne nourris pas cet état anxieux. Prends de la distance avec ça. Deuxième point que j'amènerai sur l'environnement, c'est les personnes avec qui tu passes du temps. Parce que ça aussi, ça joue. Si tu passes du temps constamment avec des personnes qui ont que des problèmes, qui bouclent tout le temps sur les mêmes choses, qui te parlent juste de ce qui ne marche pas, de ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte d'entretenir ton état anxieux en te nourrissant avec des relations qui viennent confirmer ce que tu penses, que tu crois, ce que tu vis déjà, et en fait, t'entretiens le cercle vicieux. Tu sais, si tu me dis, je me suis brûlé sur l'avant-bras, mais je vais continuer à mettre mon bras collé au chauffage, et puis je vais continuer à aller prendre le soleil sans mettre de crème, et puis je vais continuer à frotter dessus tous les jours. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas logique. Dans ta tête, tu te diras, bon, bah, si je me suis brûlé, je vais me protéger, je vais peut-être mettre de la crème pour aider à ce que ça se répare mieux, que mon corps récupère, etc. Ça ne viendrait pas à l'idée de dire, bon, bah, je me suis brûlé, je vais aller me mettre à côté d'un feu de camp, puis je vais encore mettre un peu plus de chaud dessus. Parce que de toute façon, vu que ça me brûle déjà, je vais en rajouter une couche. Mais en fait, je fais juste le parallèle entre ce que tu consommes en termes d'informations et comment tu te nourris avec tes relations. Et il y a vraiment un point à faire là-dessus, si jamais t'es dans un cadre anxieux, parce que et je vais finir avec ça, après je te laisse la place, Samir, c'est que dans les piliers clés de notre équilibre psychologique, il y a plusieurs piliers. T'as parlé d'un pilier très important, Samir, c'était le sommeil. Ça, c'est un pilier qui est très important. Mais un autre pilier qui est essentiel, c'est tes relations sociales. Si tu te sens pas bien, peut-être parce que tu t'entoures des mauvaises personnes, entre guillemets, il n'y a pas de mauvaises personnes, mais pour toi, c'est pas les personnes qui sont les bonnes pour que tu puisses avancer, ben c'est pas bon. Mais peut-être que tu t'isoles aussi. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu développes pas de relations sociales. Et ça, c'est problématique aussi, parce qu'on n'est pas fait pour être tout seul. T'as envie de rester célibataire toute ta vie, faire ta vie tout seul, c'est pas un problème. Quand je suis pas en train de te dire qu'il faut impérativement que tu sois avec quelqu'un. Mais c'est dans tes connexions et tes interactions sociales, ça par contre, c'est essentiel. Si tu t'isoles, c'est sûr que ça va mal aller. Et il y a juste à regarder tous les états dépressifs et les états anxieux qui se sont déclenchés suite à la période de confinement qu'on a eu pendant le Covid. Il y a plein de gens qui ont souffert de ça et qui continuent à en souffrir aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de confinement, parce que pendant un laps de temps trop long, ils ont été isolés de leur côté, sans contact physique, sans contact social. Oui, il y a le contact qu'on a par Internet, par le téléphone, par les apps, etc. Mais il y a aussi ce besoin de contact, d'être en présence d'autres personnes, d'autres individus. Ouais. Et si t'as pas ça, bah ton cerveau, il dévisse, ce qui est normal. Et du coup, bah regarde un peu ce que tu fais, parce que ça, c'est des piliers qui vont être très, très, très importants.
Ouais, vraiment. Vraiment. Peut-être, Julien, autre point qu'on va amener, c'est celui de l'index de computation. Ça, on en parle beaucoup de ça dans la formation de praticiens et de maîtres praticiens, parce que c'est quelque chose qui est très central dans le domaine du coaching qu'on va énormément utiliser. Et c'est le lien entre nos pensées, nos émotions et notre corps, en fait. Ouais. Donc, ce que l'index de computation nous amène, c'est qu'il y a un lien entre ces trois éléments. Nos pensées vont influencer nos émotions, vont influencer notre corps. Notre corps va influencer nos pensées et nos émotions. Nos émotions vont influencer notre corps et nos pensées. Donc, juste de comprendre que si tu comprends ce petit principe, tu vas pouvoir poser des actions. Quand tu es dans l'anxiété, tu es dans l'émotionnel. Mais on garde à l'esprit qu'avant d'être dans l'émotionnel, tu étais dans les pensées. Tu étais en train de constamment réfléchir à des choses négatives, à anticiper, à imaginer les pires scénarios possibles. Et c'est ça qui a influencé par la suite ton émotionnel. Et une fois que tu es dans l'émotionnel, qu'est-ce que ça va faire? Ça va influencer derrière ton corps, dans le sens où tu vas ressentir des choses, tu vas avoir parfois mal à des endroits de ton corps que tu n'imaginais même pas. Elle va se transformer en douleur physique, en fait, cette anxiété, cette chose que tu ressens, cette pensée qui, au départ, qui était négative. Donc, de comprendre que ces trois-là vont être liés. Donc, de modéliser un petit peu tout ça. Sache que avant de vivre ces états anxieux, tu vas être dans la pensée. Tu vas être avec des pensées négatives. Tu vas avoir des pensées négatives. Peut-être d'agir à ce moment-là. Dès que tu commences à ruminer, de soit faire quelque chose qui te fait du bien, qui va t'amener des émotions positives, soit tu te mets en mouvement. Tu te mets en mouvement comme pour dire à ton corps, non, tout va bien, en fait, tu sais. Parce que souvent, dans ces moments-là, on va comme se figer. Mets-toi en mouvement, va marcher, va faire quelque chose qui te plaît, va faire du sport, va prendre une douche chaude, tu sais, fais quelque chose qui va te faire du bien, qui va te faire ressentir quelque chose de positif au niveau du corps. En fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il est là pour créer de la cohérence. Donc, si tu vis des pensées négatives, mais qu'en même temps, tu te mets en mouvement et tu fais quelque chose que tu aimes, que tu fais généralement quand tout se passe bien, ton cerveau, il va dire, ok, je suis en train de vivre des pensées négatives, mais en même temps, je suis en train de faire quelque chose que je fais pas généralement quand je vis des émotions négatives. Ces choses-là, je les fais quand tout se passe pour le mieux. Donc en fait, le corps, il va comme rééquilibrer le système. Et c'est ça, en fait. Comme tu dis, Julien, ne pas s'isoler, déjà, c'est un point important. Mais ne rien faire, mais c'est la pire chose. C'est là que tu vas vivre vraiment des états anxieux qui vont être hyper, hyper compliqués, hyper difficiles. Et, et tu vas te mettre vraiment dans la merde à ce moment-là.
Ouais, tout à fait. Et tu vois, pendant que t'expliquais ça, en fait, il y a un élément qui est important à comprendre dans la gestion de ces états anxieux. C'est que t'es responsable, en fait, de partir à la découverte et dans la maîtrise de tes propres stratégies d'autorégulation. Parce qu'en fait, chez une personne qui va éventuellement se projeter à un moment donné dans des situations qui sont négatives, qui sont problématiques, qui va anticiper négativement les choses, mais qui ne va pas déclencher d'état anxieux ou de crise d'angoisse, c'est parce que le système est capable de s'autoréguler à ce moment-là. C'est-à-dire que les mécanismes d'autorégulation, ils sont en place, ils fonctionnent, ils sont efficaces. Chez une personne avec un profil anxieux, ces mécanismes d'autorégulation sont beaucoup moins efficaces, beaucoup moins actifs. Donc, pour pouvoir aller de l'avant, parce que tu peux très bien dire, bah, je vais aller voir mon médecin, il va me filer un anxiolytique ou un antidépresseur, puis ça va aller mieux. Alors, ça peut potentiellement t'aider, oui. Pour certaines personnes, ça marche pas du tout. Pour d'autres, bah en fait, ils ont tous les effets secondaires qui sont marqués sur la boîte et ils n'ont pas les effets bénéfiques qu'on recherche avec le traitement. Malheureusement, ça arrive. Mais c'est vraiment important de garder en tête que t'as une part de responsabilité, en fait, dans les stratégies d'autorégulation que tu vas utiliser. Et c'est là, en fait, où bah une approche comme la PNL ou une approche comme la systémique, qui peut être appliquée autant en thérapie qu'en coaching, pour les deux, c'est que grâce à la personne que tu vas consulter, cette personne-là, elle va t'aider justement à mettre à jour quelles sont les stratégies cognitives que tu utilises. Et quand on parle de stratégies cognitives, c'est tes pensées, tes émotions, tes comportements. Qu'est-ce que tu utilises pour savoir si peut-être que pour toi, le mieux, c'est d'enfiler ta paire de baskets et d'aller courir. Peut-être que pour toi, la meilleure stratégie, c'est de te poser, de prendre un carnet et d'écrire dedans. Peut-être que pour toi, la meilleure stratégie, c'est de te poser et de faire de la méditation. C'est vraiment de voir, en fait, que il existe énormément de techniques et de méthodes différentes pour pouvoir mieux gérer tes états anxieux et augmenter ta capacité d'autorégulation. Donc, pour amener des changements de comportement, de réaction, de pensée, d'émotion. Mais ça dépend de toi. Donc, te faire accompagner sur le sujet pour pas rester tout seul, complètement coincé, c'est important. Mais, ça dépend de toi, et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Samir, changer ton alimentation, ça dépend de toi. Si tu sais pas ce que tu dois manger pour aider ton système à mieux se porter, va chercher les informations. C'est pas comme si c'était disponible. Tu sais, et l'excuse de « ouais, mais moi j'ai pas les moyens de me payer un diététicien ». Tu prends tes petits doigts, tu utilises ton téléphone ou ton clavier d'ordinateur, puis tu vas chercher en fait l'information, et tu vas la trouver, l'information. Mais ce qui va être important, c'est toi te responsabiliser vis-à-vis de ta condition, de ton état, et de partir en quête de qu'est-ce qui fonctionne. Et je sais que ça peut être très difficile, parce que bah, des personnes anxieuses, j'en ai vu beaucoup passer, je le suis moi-même beaucoup moins qu'avant, mais si je fais pas attention, ça peut très bien repartir dans l'autre sens. Et ça, je le sais pertinemment. Et je sais aussi que se mettre sur ce chemin pour découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour soi, bah, c'est un chemin qui peut être long. Parce que t'as peut-être plein de gens qui vont te dire « Ouais, mais tu devrais te mettre à la méditation, tu vas voir, ça va vraiment te calmer ton anxiété, ça va vraiment être efficace. » Oui, la méditation est super efficace pour ça. La sophrologie l'est tout autant, peut-être même plus. Et là, je pense que c'est un biais personnel pour l'avoir appris, l'utiliser et continuer à l'appliquer aujourd'hui. Mais ça se trouve, c'est pas ça qu'il te faut. Et tu peux pas juste prendre le raccourci pour satisfaire le besoin de cohérence de ton cerveau pour dire « Ouais, bah moi j'ai essayé la méditation, fait que de toute façon ça marche pas pour moi, donc je suis pris avec mon anxiété, puis je dois faire avec. » Non, tu dois continuer ton chemin, tu dois continuer de tester, et pas juste une fois. Faut vraiment que tu testes de manière beaucoup plus approfondie, et que tu répètes les choses, et surtout que tu fasses une chose à la fois. Parce que, tu sais, des fois on a un élan qui nous prend de « je veux régler ce problème-là, puis je veux tout faire pour que ça marche ». Fait que tu fais de la méditation, tu fais du sport, tu changes ton alimentation, tu fais ceci, tu fais cela. Et en fait, déjà, bah, tu surcharges ton système en termes d'application de changement, c'est franchement pas la meilleure idée. Et surtout, tu vas être incapable de dire lequel fonctionne vraiment. Est-ce que c'est le fait d'avoir changé ton alimentation? Est-ce que c'est le fait d'aller courir 3 fois par semaine? Est-ce que c'est le fait de te coucher plus tôt le soir? Est-ce que c'est le fait de lire plus souvent? Est-ce que c'est le fait de pas consommer les réseaux sociaux autant que t'as l'habitude? En fait, tu sauras pas le dire. Donc, c'est vraiment de voir que oui, c'est chiant. Oui, c'est la galère que de vivre ce genre d'état. Mais ton chemin de progression, il va être aussi lié à ta capacité de patience et de persévérance sur chaque changement que tu vas apporter, que tu vas porter pendant plusieurs semaines. Et là, tu vas évaluer, tiens, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Et si c'est mieux, tu le maintiens et tu vois si tu peux rajouter une deuxième chose. Et en faisant cette deuxième chose, tu réévalues. Est-ce que ça a aidé finalement ma progression par rapport à d'habitude? Ou est-ce que ça a diminué les effets de ce qui fonctionnait au départ? Et ou ça a rien changé du tout? Et dans ce cas-là, bah tu supprimes ou t'augmentes et tu vas en chercher un troisième. Et en fait, tu vas trouver tes propres techniques d'autorégulation. Mais ça, ça t'appartient. Tu peux, mais c'est pas la bonne idée, t'en remettre juste à « bon, bah je prends mon cachet pour éviter d'être anxieux, puis je vis ma vie un peu comme ça vient, puis de temps en temps, je fais une crise. » C'est pas l'idéal, là. Je pense que tu peux vraiment aller vers du mieux.
Totalement, Julien, et c'est bien de le préciser, en fait, c'est que la solution, bah ça va dépendre de chacun, en fait. Ça va être en fonction des affinités de chacun, des habitudes de chacun, de ce que chaque personne va apprécier ou pas. Donc, voilà, moi, par exemple, j'aime bien mettre mes chaussures, aller courir ou sortir marcher quand je suis pris d'anxiété, quand ça me prend vraiment toute la place, là. Mais peut-être que, comme tu dis, d'autres personnes vont préférer, je sais pas, moi, aller prendre une bonne douche chaude, écrire, dessiner, faire de la méditation, peu importe. Donc, il y a peut-être même pour certaines personnes, ça va être ils vont peut-être préférer être entourés, d'aller voir des amis. Moi qui suis par exemple introverti, bah dans ces moments d'anxiété, je préfère être seul. Mais quand je dis je préfère être seul, c'est faire une activité, aller marcher en nature ou aller courir, mais tout seul. J'aime pas le faire en groupe par exemple.
Ouais.
Parce que j'ai besoin de mon espace. Donc voilà, ça dépendra de chaque personne. Autre point, Julien, t'as dit quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir.
Qu'est-ce que j'ai dit encore?
Quand tu disais, par exemple, bah, si t'as pas les moyens d'aller voir un diététicien, tu vas chercher les informations. Ça, c'est vrai. Parce que faut savoir que si tu n'as pas, effectivement, les moyens, aujourd'hui, avec Internet, il y a tout. Tu peux trouver des informations. Après, le truc, c'est que tu vas trouver beaucoup d'informations. Il va falloir faire le tri. Et ça peut encore amener de l'anxiété. C'est ça le truc qu'il faut garder à l'esprit, surtout chez quelqu'un qui a un profil anxieux. Le trop plein d'informations peut amener du stress. Et aussi le fait de vouloir chercher la meilleure information. Donc, de comprendre peut-être qu'il y a un point que j'aimerais amener. Je comprends effectivement qu'on vit des périodes difficiles financièrement. Voilà, en ce moment, c'est difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à finir les fins de mois. Mais peut-être qu'il y a un point que j'aimerais amener, c'est qu'on en a parlé la dernière fois justement sur notre podcast sur les finances. C'est que très souvent, on a tendance à négliger certaines choses. On se dit, non, c'est pas grave, en fait, tu vois. C'est pas grave, tu sais, je vais me débrouiller autrement et tout ça. Mais la santé, c'est quelque chose de central. Et la dernière fois, dans le podcast, on avait expliqué que, en fait, dans tout l'argent qu'on a, si on fait le tri, il y a de fortes chances que 10 à 15% de cet argent qu'on gagne, on les jette dans des choses qui sont pas nécessaires. Netflix,
même
notre
plus.
Abonnement télé. Ouais, voilà.
Ça, même plus. Ouais,
même
complètement.
Oui, même plus, tu sais, je le fais comme ça, je donne un petit chiffre, parce que on avait donné des exemples, hein, Julien. On avait donné des exemples de là où on peut gaspiller notre argent sans faire attention. Mais je dis genre 15%, juste pour que déjà au moins ces 15%, si tu les mets de côté, je suis sûr et certain que tu peux te payer un nutritionniste si tu en as besoin. Donc juste de comprendre que aujourd'hui, tu te payes certainement un abonnement de télévision ou tu vas regarder des news qui vont être anxiogènes. Peut-être que tu te payes plusieurs services de streaming. Peut-être que chaque mois, tu vas t'acheter 2 jeux vidéo. Ça va te revenir peut-être à une centaine d'euros. Et au final, tu sais, tu peux réduire sur ces choses-là. Garde à l'esprit juste que si tu prends pas soin de toi, si tu prends pas soin de ta santé, aujourd'hui, peut-être que tu dis, ouais, c'est un peu trop cher et que tu préfères aller dépenser ton argent dans des choses qui sont peut-être pas nécessaires. Mais un jour ou l'autre, bah, en fait, ça va se retourner contre toi. Parce que cette anxiété que tu vas cumuler, elle va se transformer peut-être en maladie. Elle va se transformer en quelque chose qui va être beaucoup plus difficile. Peut-être qu'elle va te coûter des relations. Peut-être qu'elle va te coûter ton conjoint ou ta conjointe, qui au bout d'un moment, on aura peut-être marre, qu'elle n'arrivera pas à gérer parce que tu vas avoir des comportements qui vont être comme négatifs. Et à ce moment-là, bah, malheureusement, tu auras beaucoup plus à perdre de pas investir sur toi-même. Alors quand je parle de diététicien, ça peut être un diététicien, mais ça peut être aussi un coach, ça peut être aussi un thérapeute, peu importe. Mais tu auras beaucoup plus à perdre à ne pas investir sur toi pour gérer cette anxiété que de se dire, ben non, c'est pas grave, mais de toute façon, j'ai pas l'argent pour. Et puis, tu vas continuer à entretenir ces comportements-là. Vraiment, fais très attention parce que ça peut être très, très dangereux. Tu vas soit avoir des maladies qui peuvent être très, très graves, tu pourrais développer des maladies très graves, d'accord ? Alors, encore une fois, on fait pas le raccourci. Maladie cardiovasculaire est forcément corrélée à anxiété, mais il y a une corrélation aussi entre anxiété et d'autres facteurs et maladies cardiovasculaires. Donc, c'est ça aussi. Mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être comme des problèmes liés, ben, je sais pas, comme Alzheimer ou des choses comme ça qui pourraient venir comme ça. Si on additionne plein de facteurs plus l'anxiété, ben, ça va amener à ce moment-là
C'est un cocktail explosif. Hein.
Ouais, c'est un cocktail explosif. J'ai dit Alzheimer, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà, je sais pas s'il y a un lien avec
Parkinson, ou autre. Ouais. Bah, si, il y a des études qui ont démontré qu'il y avait des profils qui allaient avoir beaucoup plus tendance à. Il y a aussi l'aspect génétique qui est en jeu. Mais c'est certain que tous ces éléments-là, associés les uns aux autres, à un moment donné, bah, c'est pas bon. Et tu peux être en parfaite santé. Parce que c'est ça aussi qui est assez curieux avec le fonctionnement du corps humain, c'est que tu peux être en parfaite santé, manger correctement, jamais fumer, jamais boire ou très très peu, pas faire d'activité intense qui pourrait blesser ou qui pourrait fatiguer ton organisme, et puis en fait te déclarer une maladie incurable, te déclarer un cancer, avoir quelque chose qui se développe en toi. Et comme à l'inverse, tu peux avoir une vie que tu mènes en brûlant les deux bouts de la chandelle et en fait passer toute ta vie sans avoir plus qu'un rhume, quoi.
C'est ça.
Et c'est là en fait où on est vraiment différents les uns des autres, et c'est un peu la loterie aussi quelque part, malheureusement. Mais c'est pas parce que tu es dans un extrême ou dans l'autre, bah t'as la possibilité de passer à travers qu'il t'arrive jamais rien, ou t'as la possibilité de déclarer un truc alors que t'as rien demandé pour que ça se produise, qu'il faut justement mettre de côté tes obligations vis-à-vis de toi-même et les choses que tu dois mettre en place, les choses que tu dois faire pour t'assurer que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour toi.
C'est ça.
Donc ça c'est super important. Alors tu vois, par rapport à tout ce que tu nommais ici, Samir, j'avais envie de revenir sur cette notion d'index de computation, index de conscience.
Ouais, bien sûr.
Tout à l'heure, tu évoquais donc les trois parties, les pensées, les émotions, les comportements. Et en fait, il y a une stratégie, moi, que je donne systématiquement à mes clients, mes clientes, puis que j'applique aussi moi-même, c'est que l'état d'anxiété va produire une chose qui est certaine, c'est que tu vas boucler dans ta tête et que tu vas en fait intérioriser tout le process qui va finir par ressortir par le corps avec des symptômes divers et variés. Une stratégie qui fonctionne super bien pour justement gérer ces moments où t'es dans cet état de panique intérieure, dans ce malaise intérieur, et tu sens que ça commence à te bloquer, en fait, c'est de faire comme si tu venais de gagner au loto, ou que tu venais de décrocher le job de tes rêves, ou que tu viens d'apprendre que tu vas avoir un nouveau bébé chien à la maison, que tu vas avoir un nouvel enfant, ce que tu veux, là, ce qui te stimule le plus en termes d'idées, de choses que tu aurais envie de célébrer à fond. Et tu te connectes à ça et tu sautes sur place. Vraiment, tu jettes les bras en l'air, tu cries, tu chantes, tu danses, tu fais ce que tu veux, mais tu t'actives pour la simple et bonne raison que dans ton système nerveux, l'état de tension que tu vis lié à ton anxiété et l'état de tension que tu vis lié à ton excitation, C'est le même chemin, c'est les mêmes stratégies. Par contre, ce qui est différent, c'est comment est-ce que tu interprètes, toi, la situation dans ta tête. Et le truc qui est chouette, c'est qu'on a quand même le pouvoir d'influencer notre perception des choses de manière très simple et très rapide. Si j'adopte le comportement de moi en train de sauter de partout, de bouger, de crier, de chanter, qui est représentatif de « je suis en état d'excitation, de joie, de célébration », qu'en plus, je porte mon attention sur des choses qui peuvent justement m'aider à canaliser en fait cet état positif-là, et qu'en plus de ça, je rajoute un élément qui est crucial, c'est de dire à voix haute « je suis excité, je suis dynamisé, je suis boosté, je suis heureux de ». Et en fait, si tu fais ça, ton système, il n'a pas le choix que de se remettre dans la bonne case. Parce que tu es en train d'influencer les différentes parties de ton index, tu es en train de recréer un autre équilibre dans ton système et tu permets justement à ton système de se remettre dans une dynamique qui est différente, qui est bien plus positive et bénéfique. Et tu vas passer de ton état d'anxiété à « ok, là maintenant ça va mieux ». Je suis peut-être pas encore 100% confortable, mais ça va beaucoup mieux. C'est moins présent, c'est moins prenant, et je peux donc maintenant m'engager dans de l'action.
Ouais, exactement. Bien vu, je viens justement d'avoir amené encore un peu plus d'éléments, et cette notion d'excitation qui fonctionne aussi bien pour l'anxiété, mais le stress également, quand tu vis du stress intense, de dire, tu sais, au lieu de dire « je suis stressé », de dire « je suis excité ». Parce que c'est très très proche en réalité. C'est juste que quand t'es excité, tu vas te mettre en mouvement, tu vas comme bouger, faire sortir cette énergie-là. Quand tu vis du stress, t'es comme, t'es sur place, tu te bouges pas en fait. Cette énergie, elle est pas utilisée. Vraiment, c'est un élément qui paraît peut-être simple, mais qui fonctionne en fait, vraiment. Et c'est ça souvent, c'est que on a l'impression qu'en fait, que quand on vit des choses difficiles, il faut automatiquement des solutions qui vont être complexes et difficiles. Et que c'est pas toujours vrai, en fait. Des fois, il suffit d'un petit truc. C'est juste ça. Il faut comprendre déjà comment ça fonctionne et après poser des actions qui sont pas toujours complexes en réalité.
Complètement.
Julien, j'ai reparlé tout
c'est
à
moi.
L'heure. Oui, c'est toi. Ok. Bonjour, Julien.
Salut.
Enchanté. Tu vois, on a parlé rapidement des finances, là, quand j'avais dit, je reviens sur cette notion. N'hésite pas à te faire accompagner. Si c'est quelque chose qui prend trop de place dans ta vie, qui t'apporte
complètement
du négatif, que ça influence tes relations, que tu sens que ça a un effet sur ta santé, peut-être que tu vis des maladies psychosomatiques à cause de cette anxiété, si toi, tu n'arrives pas à t'en sortir seul, tu peux te faire accompagner. Et ça peut être très, 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 très efficace. Et quand je te parle d'accompagnement, ça va être par un professionnel, donc ça peut très bien être un thérapeute, si besoin, d'accord? Mais ça peut aussi être un coach qui est formé, qui est vraiment formé, qui est professionnel, ou également voir d'autres personnes comme des nutritionnistes, un coach sportif s'il y a besoin, parce que le sport peut aider également. Donc vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu peux mettre en place à ce niveau-là, mais juste de t'assurer que le professionnel avec qui tu vas travailler, qu'il soit coach, qu'il soit thérapeute, peu importe, ce soit une personne qui soit sérieuse et formée. Si tu veux te diriger vers la voie du coaching, sache que on est un centre de formation en coaching systémique avec plusieurs approches comme la sophrologie. Julien, peut-être que tu pourrais faire la pub juste après, mais que chez nous aussi, on a des personnes qu'on pourrait te recommander, des étudiants à nous qui ont été formés chez nous et en qui on a pleinement confiance.
Ouais, tout à fait. Et effectivement, comme tu le sais, ce podcast, il est sponsorisé. C'est du temps qu'on prend sur notre travail au sein de l'Institut pour te partager un maximum d'informations. Donc, l'Institut sponsorise finalement ce podcast à travers ce temps qu'on s'alloue pour le faire. Et l'Institut, c'est un centre de formation d'excellence en coaching systémique avec différentes approches selon ce qui t'intéresse le plus. PNL, sophrologie, hypnose et psychologie positive dans sa branche scientifique. Donc, ça... C'est effectivement ce que propose l'Institut Merlin. Mais c'est aussi un institut où tu vas retrouver des coachs, comme tu le dis Samir, que nous avons formés début jusqu'à la fin et qu'on continue d'accompagner aussi pour leur permettre d'exceller et d'offrir ce qu'il y a de mieux en termes d'accompagnement en coaching. Et bien entendu, si tu avais un besoin quelconque, n'hésite surtout pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir en fait de te guider vers la personne qui pourrait être la plus à même de t'aider, de t'accompagner sur le sujet et de voir quels sont les plans qui peuvent être mis en place pour t'accompagner vers les projets, vers les réalisations, les changements que tu cherches à vivre. Donc c'est pas compliqué, tu cliques sur le lien qui est en description en dessous de ce podcast, que tu l'écoutes sur YouTube, que tu l'écoutes sur iTunes Podcast ou une autre plateforme, Spotify ou peu importe, tu trouves les informations. Donc tu es juste à un clic d'avoir les réponses dont tu as besoin pour justement aller de l'avant. Petit point complémentaire aussi, c'est que si jamais le sujet de l'anxiété t'intéresse et que tu as envie de comprendre un peu plus comment ça fonctionne et puis surtout qu'est-ce que tu peux mettre en place pour mieux gérer ça dans ton quotidien, mais peut-être aussi accompagner tes proches ou des clients sur ce sujet, eh bien sache qu'on a un programme justement spécifiquement sur la gestion du stress et de l'anxiété dans le quotidien pour aider justement à gagner du terrain là-dessus et comprendre quels sont les leviers sur lesquels on doit vraiment s'appuyer pour avoir les meilleurs résultats possibles.
Exactement, exactement. On te mettra le lien en description, en fait, de ce podcast. Tu pourras retrouver l'information. Et sache que c'est un programme qui, tu sais, qui va te donner des outils, mais qui va aussi t'expliquer vraiment dans le détail comment fonctionne l'anxiété. Et il y aura des petits exercices à faire, justement, comme pour mettre à jour aussi qu'est-ce qui t'amène à tomber dans cette anxiété. Et ça, c'est un point important parce que si on ne sait pas d'où ça vient, en fait, si on ne comprend pas le souci, si on ne sait pas qu'est-ce qui la déclenche chez nous, automatiquement, on va tomber dedans sans s'en rendre compte et on peut pas apprendre la maîtrise. Donc vraiment, c'est un programme qui est vraiment bien fait. Qui est vraiment bien fait.
Pour reprendre les termes techniques, en fait, ce qu'on fait aussi à travers ce programme, c'est ce que tu dis, Samir, c'est qu'on fait de la modélisation de ton mode de fonctionnement pour que tu puisses savoir sur quel levier il va falloir que tu appuies, les choses qu'il va falloir que tu changes, pour commencer à progresser sur ce sujet. Et encore une fois, n'achète pas de solution miracle sur ces notions-là d'anxiété parce que ça n'existe pas. Non. D'accord ? Il n'y a pas une pilule miracle qui t'aide à sortir de ton anxiété. Il n'y a pas une technique miracle qui t'aide à sortir de l'anxiété. C'est apprendre à mieux te comprendre et à développer tes stratégies d'autorégulation. Et plus, en fait, tu renforces tes stratégies d'autorégulation, plus tu permets à ton cerveau et ton système d'utiliser ces stratégies de façon de plus en plus inconsciente, de plus en plus automatique, parce que tu lui as appris quoi faire pour justement gérer dans ces moments-là. Et en fait, tu comprendras l'importance et la valeur de ce que je suis en train de te dire là le jour où tu vas le mettre en application. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est « ouais, mais moi j'ai testé plein de trucs, puis je tourne en boucle et je continue de vivre mon anxiété ». Oui, mais c'est pas parce que t'es incapable de le gérer, c'est parce que t'as pas encore développé les bonnes stratégies d'autorégulation pour le faire. Et ça se trouve, t'as déjà testé des choses qui fonctionnent pour toi. Mais comme t'as pas pu le mesurer, comme t'en as pas vraiment pris conscience, tu les as mis de côté en te disant « bah en fait, ça marche pas, donc ça sert à rien ». Non, travaille à développer ton autorégulation parce que c'est un pilier très très important pour que tu puisses justement aller de l'avant. Très important.
C'est ça. Exactement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast, Julien. Maintenant, toi qui nous écoutes, si tu as besoin de plus d'informations, tu auras la formation dans la description. Si tu as d'autres questions sur ce thème-là, n'hésite pas à nous envoyer un message tout simplement ou laisser un commentaire. On essaiera de te répondre le plus rapidement possible. Si tu cherches un coach, tu sais à qui demander. Tu nous appelles, tu nous envoies un message et puis on sera ravis justement de te recommander l'un de nos coachs pour pouvoir travailler sur les points de blocage, ton anxiété, peu importe vraiment, et pouvoir t'aider à dépasser ces freins. Et sache que c'est pas une fatalité. Sache que Julien et moi, on est des profils atypiques. On a vécu ce problème d'anxiété, on le vit encore, mais justement, on a des outils qui nous ont aidés aujourd'hui à reprendre la maîtrise. Ce qui fait plutôt que ça va s'étendre dans le temps, soit on peut agir avant que l'anxiété se présente, soit on peut agir pendant que l'anxiété pour faire en sorte qu'elle dure moins longtemps. Je sais que moi, parfois, ça pouvait durer des semaines et j'ai développé des problèmes d'intestin irritable à un certain moment, il y a plusieurs années là. C'était horrible. Et ça, tu sais, j'en étais arrivé à un moment même où je ne pouvais plus m'alimenter pendant une semaine parce que j'ai fait des crises. Tout ce que je mangeais, en fait, finissait par ressortir. J'ai dû être hospitalisé et tout. Et de comprendre juste que avec des outils pratiques, encore une fois, qui vont être adaptés à ta propre personne, c'est pour ça que, Julien, tu disais pas de solution miracle. C'est pour ça qu'un coach peut t'aider à construire une solution qui t'est adaptée. Un coach qui est bien formé.
C'est pas là pour te dire ce que t'as à faire puis te donner des conseils, là.
C'est ça. Qui est pas là pour te dire j'ai la solution miracle, tu fais ça, si ça marche pas, c'est de ta faute. Non. Un vrai coach va t'aider à modéliser ce qui fonctionne le mieux pour toi.
Complètement.
C'est ça.
Ouais, complètement.
Ouais, donc voilà, comme je disais, Julien et moi, on l'a vécu, mais aujourd'hui, on a justement des outils qui nous permettent de faire en sorte d'agir avant que ça ne devienne pire.
Exact.
C'est ça.
Donc maintenant que tu as toutes ces informations-là en main, bah, comme d'habitude, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast. Si t'es pas abonné encore, bah tu cliques sur le petit bouton, comme ça bah, tu seras sûr de recevoir les alertes, les notifications sur chaque épisode qu'on publie, puisque rappelle-toi, c'est un épisode par semaine, et aujourd'hui c'est le 160e épisode.
Ça se fête.
C'est-à-dire que t'as... Ouais, ça se fête. Donc c'est vraiment du contenu qu'on crée pour partager l'information, pour recadrer aussi les choses qui peuvent être dites sur le domaine public qui ne font aucun sens, qui ne t'aident pas à avancer, qui ne t'aident pas à comprendre finalement comment tu fonctionnes. Donc, t'as de l'or entre les mains, profites-en, écoute, réécoute, partage-le, commente, pose des questions, interagis avec nous, parce que bah, on est là aussi pour accompagner, on est là aussi pour apporter un maximum de valeur là où bah, tellement d'autres personnes pourraient en apporter mais ne le font pas. Bah, nous, on a pris ce rôle de le faire et de couvrir un maximum de choses pour t'aider à progresser et à avancer.
Exactement. Peut-être un point qu'on rajouterait en plus, laisse-nous nos 5 étoiles sur ton application de podcast favori pour faire remonter encore plus ce podcast. Alors Julien, récemment, on a vu qu'on était quand même bien classé, c'est-à-dire que notre podcast est quand même assez connu, assez écouté justement sur Apple Podcast.
Ça fait très plaisir d'ailleurs.
Ça fait vraiment plaisir. Ouais. C'est quand même... ça fait 3 ans et demi, Julien, qu'on construit ce podcast-là. Donc,
Oui, tout à fait.
Donc, ça fait plaisir de voir que notre travail, justement, plaît, qu'il est écouté. Et on compte sur toi pour le faire connaître encore à un maximum de monde. Et puis, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. Oupinez, hé les gars, il y a des donuts !